Ah, c'est peut-être ça. D'accord, je comprends. J'espère que vous allez bien et que le Seigneur vous fortifie et vous encourage en ce jour de joie. C'est un vrai jour de joie. C'est un vrai jour de joie. Et nous avons vraiment une grâce exceptionnelle que de pouvoir être ensemble pour célébrer ce jour-ci. Ce n'est pas un jour anodin, c'est un jour spécial. C'est un jour spécial parce que, en ce jour, Dieu a permis que Jésus puisse vaincre le dernier ennemi, l'ennemi qui restait. Il ne restait plus que celui-là. Satan avait été vaincu, le péché avait été vaincu, mais il restait encore à vaincre la mort. Et cette victoire, il l'a remportée en sortant du tombeau. Et je crois que pour pouvoir vivre une bonne Pâque, nous devrions nous mettre dans la peau des gens qui ont vécu ces événements. Nous devrions nous mettre dans la peau de Marie, dans la peau des disciples, et imaginer ce qu'ils ont pu ressentir dans leur cœur lorsqu'ils sont arrivés au tombeau et qu'ils ont vu que Jésus n'était plus là. Nous devrions nous imaginer cette situation de joie complète, de joie qui nous transforme complètement, de dire, il est vraiment ressuscité. Il n'est plus dans le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Il a vaincu, il a cassé tous les verrous de la mort, tous les verrous de l'obscurité, tous les verrous des ténèbres, il les a cassés et il est ressuscité dans la gloire. Quelle espérance, quelle joie de dire qu'effectivement il est le premier-né d'entre les morts. Et comme on le dit souvent, si Jésus n'était pas ressuscité à l'heure d'aujourd'hui, nous serions en train de célébrer un mort. Nous serions en train de chanter gloire à l'agneau immolé pour nos péchés, mais un agneau mort. Alors qu'aujourd'hui, nous avons la grâce de pouvoir élever le Seigneur vivant, le Seigneur vraiment ressuscité. C'est un vrai jour de joie. C'est un vrai jour de joie. Et je crois que dans des églises où on veut ressentir ça, on devrait faire une pièce de théâtre à toutes les Pâques, où nous sommes, où nous vivons ça. Où nous mettons dans la peau de ces personnes-là qui arrivent au tombeau et qui voient ce tombeau perdu. Myriam arriverait, elle serait là, elle courrait, parce que Myriam, Marie, c'est le même. Alors, mon Seigneur n'est plus là. Et puis elle courrait annoncer à tous les autres ce salut merveilleux, il est ressuscité réellement. Non, on n'avait pas envie qu'on fasse ça, mais c'est pas grave. En tout cas. Ben non, bien sûr que l'idée n'est pas mauvaise puisque je la donne. Mais enfin, Ali, comme si je donnais des mauvaises idées, toi aussi. Mais en tout cas, c'est un jour de joie et nous avons pu le chanter dans nos différents chants, nous avons pu vraiment expérimenter ça. Et à côté de ça, il est vrai que c'est vraiment bon de célébrer Pâques, mais à côté de ça, nous savons tous que la Pâque, nous la célébrons. Chaque jour, si on veut le dire, mais chaque dimanche aussi. Puisque si les chrétiens se réunissent le dimanche, c'est à cause de la résurrection de Jésus. Et donc, quelque part, ce jour est un jour un peu particulier, mais cette résurrection doit nous animer tous les jours. Et c'est le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, la résurrection au quotidien. La résurrection, vivre la résurrection au quotidien. Et donc, nous allons lire deux textes. Le premier dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er, à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère qui partage avec vous la détresse, le royaume et la persévérance dans l'union avec Jésus, j'étais dans l'île de Patmos parce que j'avais proclamé la parole de Dieu et le témoignage rendu par Jésus. Le jour du Seigneur, l'Esprit de Dieu se saisit de moi et j'entendis derrière moi une voix forte pareille au son d'une trompette. Elle disait, inscris dans un livre ce que tu vois et envoie-le à ces sept églises, Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Je me retournai pour découvrir quelle était cette voix et l'ayant fait, voici ce que je vis. Il y avait 7 chandeliers d'or et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un homme. Il portait une longue tunique et une ceinture d'or lui entourait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, oui comme la neige, ses yeux étaient comme une flamme ardente et ses pieds étincelaient comme du bronze incandescent au sortir d'un creuset. Sa voix retentissait comme celle des grandes eaux. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles et de sa bouche sortait une épée aiguisée à double tranchant. Son visage était éblouissant comme le soleil quand il brille de tout son éclat. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Alors il posa sa main droite sur moi en me disant, « N'aie pas peur, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'ai été mort et voici, je suis vivant pour l'éternité. Je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va arriver ensuite. Mais d'abord, voici quel est le secret des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église et les 7 chandeliers, les 7 églises. Amen. » Et le deuxième texte dans l'évangile selon Jean, donc on retourne en arrière en réalité. Jean chapitre 20, verset 11. Jean 20, 11. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu ? » ?»« On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu ? » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu ? » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabboni », ce qui veut dire « Maître ». ».« Ne me retiens pas, lui dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur, de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapporta ce qu'il lui avait dit. Ce même dimanche, dans la soirée, les disciples étaient dans une maison dont ils avaient verrouillé les portes parce qu'ils avaient peur des chefs des Juifs. Jésus vint, il se trouva là au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie parce qu'ils voyaient le Seigneur. « Que la paix soit avec vous, leur dit-il de nouveau, « Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après avoir dit cela, il souffla sur eux et continua, « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez leurs péchés en seront effectivement tenus quittes, et ceux à qui vous les retiendrez en resteront chargés. » L'un des 12, Thomas, surnommé le jumeau, n'était pas avec eux lors de la venue de Jésus. Les autres disciples lui dirent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois pas la marque des clous dans ses mains, je ne mets pas mon doigt à la place des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » « Parce que tu m'as vu, tu crois, lui dit Jésus. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Jésus accomplit sous les yeux des disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été rapportés dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous possédiez la vie éternelle. » Quelque temps après, Jésus se montra encore à ses disciples sur les bords du lac de Tibériade. Voici dans quelles circonstances. Simon-Pierre, Thomas, appelé le jumeau, Nathanaël de Cana, en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble. Simon-Pierre dit aux autres, « Je m'en vais pêcher. Nous aussi, nous y allons avec toi, lui dit-il. » Et les voilà partis. Ils montèrent dans un bateau, mais la nuit s'écoula sans qu'ils attrapent un seul poisson. Déjà le jour commençait à se lever, et voici, Jésus se tenait debout sur le rivage. Mais les disciples ignoraient que c'était lui. Il les appela, et « Les enfants, avez-vous pris du poisson ?»« Rien, répondirent-ils. Jetez le filet du côté droit du bateau, leur dit-il encore, et vous en trouverez. » Ils lancèrent donc le filet et ne purent plus le remonter, tellement il y avait de poissons. Le disciple que Jésus aimait dit alors à Pierre, « C'est le Seigneur. » En entendant que c'était le Seigneur, Simon-Pierre, qui avait enlevé sa tunique pour pêcher, la remit et se jeta à l'eau. Les autres disciples regagnèrent la rive avec le bateau en remorquant le filet plein de poissons, car il n'était qu'à une centaine de mètres du rivage. Une fois descendus à terre, ils aperçurent un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez quelques-uns de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta dans le bateau et tira le filet à terre. Ils étaient remplis de 153 gros poissons et malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. « Venez manger », leur dit Jésus. Aucun des disciples n'osa lui demander, « Qui es-tu ?» Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur distribua. Puis il fit de même pour le poisson. C'est la troisième fois que Jésus se montra à ses disciples après sa résurrection. Amen. Alors en ce dimanche de Pâques, un court message, un partage simple. Dans les deux textes que nous avons lus ici, vous voyez qu'ils ont un point commun, le texte qu'on a lu là et le texte d'Apocalypse, c'est que ce sont deux textes dans lesquels on nous parle de la vision du ressuscité. Deux textes dans lesquels des personnes, des gens lambda, sont amenés à rencontrer et à voir le ressuscité. Ils étaient là, ils vivaient leur vie, et Dieu permet qu'ils puissent avoir un instant dans leur vie où ils voient de leurs yeux le ressuscité. D'une part, dans Apocalypse de Jean, c'est Jean lui-même qui vit ce moment, puisqu'il est là et il voit réellement le ressuscité dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et ici, ce sont les disciples qui sont là en train de vivre leur petite vie, et plusieurs fois, Jésus vient se montrer à eux. Et quand on examine ces textes, on se rend compte que chaque fois que Jésus s'est présenté dans sa gloire, alors qu'il était ressuscité à un de ses disciples, ou à Jean, c'était pour un objectif précis. Il ne se présentait pas comme ça, ou il ne se présentait pas seulement pour les encourager, seulement pour leur attester qu'il était là. La preuve, c'est que quand Thomas va le voir, il va lui dire « Heureux ceux qui auront cru sans avoir vu ». En d'autres termes, Thomas, je m'attendais à ce que tu crois sans m'avoir vu. Donc, le fait que Jésus se montre n'avait pas pour seul objectif de faire croire. Il venait à chaque fois pour des objectifs précis. Il venait à chaque fois pour communiquer quelque chose de particulier à son peuple. Et il est vrai qu'il s'est manifesté de manière visible à ces gens. Mais bien aimé, le ressuscité est encore avec nous aujourd'hui. Le ressuscité se présente encore à nous aujourd'hui et chaque fois que nous sommes réunis à deux ou à trois, il est présent au milieu de nous. Nous le savons par la foi, il est là. Et donc ce qu'il a fait à ces moments, alors qu'il était visible, il continue à le faire aujourd'hui alors que parfois nous ne le voyons pas. Il continue à s'approcher de nous, à nous rencontrer pour nous communiquer quelque chose de particulier. Nous avons besoin, effectivement, de contempler le ressuscité dans sa gloire. Il est digne, il est vraiment digne que nous puissions le ressusciter, le contempler dans sa gloire. Mais bien plus, il est aussi digne que nous puissions développer une relation avec ce ressuscité vivant. une relation dans laquelle chaque jour nous avons une occasion de recevoir de lui quelque chose. Vous savez, quand quelqu'un est vivant, on s'en rend compte. Vous êtes d'accord ou pas? Dans votre maison, quand il y a des gens qui sont là, vous le savez parce que ça bouge. Vous savez distinguer un jour d'école et un jour de congé, parce qu'un jour d'école, ben, très tôt, on entend la douche qui fonctionne, on entend les couteaux qui sortent pour mettre du Nutella sur les tartines. Voilà, vous sentez qu'il se passe quelque chose. Quand vous êtes dans une maison où il y a des gens, vous vous en rendez compte. Et d'ailleurs, la coutume, même surtout en Belgique, dans les pays européens, c'est que quand dans une maison il y avait un mort, on n'ouvrait pas les rideaux. Donc on laissait les rideaux fermés parce que voilà, quelqu'un est décédé, en attendant qu'on vienne reprendre le corps, on n'ouvre pas les rideaux. Donc, quelqu'un qui est vivant ne peut pas passer inaperçu. J'ai envie de dire, pardonnez un petit peu la saleté de ce que je vais dire, même un rat ne passe pas inaperçu. Quand vous avez un rat chez vous, vous n'en avez pas, non. Mais je déteste les rats. J'en vois un, je tombe mort. Bon, soit. Non. Eh oh, faut pas rigoler. Il faut vaincre ses peurs. Même un rat, lorsqu'il vit, on s'en rend compte. En d'autres termes, si quelqu'un vit avec moi, si quelqu'un est dans mon espace, s'il y a un animal, s'il y a quelque chose qui est là avec moi, je m'en rends compte. Et quand on dit que Jésus est vivant, lorsqu'on dit que Jésus est ressuscité, ça veut dire qu'il est là, à côté de nous, qu'il agit, qu'il nous parle, qu'il nous voit. Le tout, effectivement, c'est juste dans notre regard. Le problème, ce n'est pas ce que Dieu fait ou ne fait pas, ce n'est pas sa présence ou non, c'est notre capacité à remarquer les traces de sa grâce. Parfois, nous sommes dans de tels déserts que nous n'arrivons même plus à nous rendre compte que le ressuscité est là. Il est là, il nous parle, et nous sommes aveuglés, et ça nous arrive à tous. Surtout quand on a un vrai problème, un gros problème, et qu'on y pense tout le temps, on rumine, comme on dit. Là, on est assis, là, dans son fauteuil, et malgré que la télévision fonctionne, les images passent, on ne regarde pas vraiment la télévision. Ça vous est déjà arrivé, hein? Ah oui, je le vois bien. Hier soir, vous avez encore eu ça, ça se voit. Mais parce qu'on est occupé, nos pensées sont occupées, et on ne remarque pas que le ressuscité est en train d'agir dans notre vie. Et c'est vraiment quelque chose, une prière que nous devrions faire. Ouvre les yeux de mon cœur, Seigneur, pour que je puisse voir les traces de ta grâce. Parce que si tu es vivant et si tu es bon envers moi, alors certainement que tu fais des choses, certainement que tu te manifestes, certainement que tu es là. Aide-moi à le voir. Aide-moi à être attentif. Aide-moi à me rendre compte que le ressuscité agit. Il se présente encore à moi comme il s'est présenté dans ces textes-là. Et dans ces textes-ci, si on le voit de manière chronologique, vous allez tout de suite vous rendre compte qu'en réalité, à chaque fois que Jésus s'est présenté, il venait pour quelque chose de particulier. Premièrement, Marie de Magdala. Marie de Magdala, elle était là en train de pleurer Jésus. Vous avez peut-être remarqué dans les textes avant que les disciples n'avaient pas compris que Jésus allait devoir ressusciter. La mort, ils avaient à peu près saisi l'idée, mais la résurrection, et d'ailleurs vous aurez remarqué, c'est une parenthèse, que Jésus dit « tout est accompli » alors qu'il n'est pas encore ressuscité. Or, pour que l'œuvre soit complètement accomplie, il fallait aussi qu'il ressuscite. Parce que la résurrection, c'est l'acte par lequel Dieu marque son approbation sur le sacrifice de Jésus. Soit, c'est une parenthèse. Tout ça pour dire que les disciples n'avaient pas tout à fait compris qu'il allait ressusciter. Et donc, Marie est en train de pleurer auprès du tombeau. Et puis, elle voit un monsieur qui est là et qui est simplement là. Et elle pense que c'est le gardien du jardin, le jardinier. Et rappelez-vous qu'une fois, j'avais ouvert une petite parenthèse, il y a très longtemps, vous avez tous oublié, même ce qu'on a dit la semaine passée, vous avez déjà oublié, donc ce que j'ai dit l'année passée. Pardon ? Ah bon, mais ouvrir une parenthèse pour dire, ce texte nous apprend à faire attention à ne pas mépriser les gens que nous ne connaissons pas. Hein, elle pensait que c'était le jardinier, elle pensait que c'était le gardien du jardin, elle aurait pu mal lui parler, elle aurait pu le mépriser, elle aurait pu l'insulter. En vérité, c'était le Seigneur. Et c'est un texte qui nous apprend qu'en tant que chrétien, nous devons avoir un respect profond pour chaque être que nous rencontrons. Nous ne savons pas qui est qui. Vous pouvez avoir un jardinier, un gars comme ça dans la rue, et qu'il soit finalement quelqu'un en qui Dieu dépose une grâce particulière. Mais enfin, soit ça pour dire que nous n'avons pas la maîtrise de tout. Et c'est pour ça que nous ne devons pas juger facilement. Parce que nous n'avons qu'une part de la réalité. Nous devons avoir ce respect, cette circonspection envers les gens. Et donc elle pense que c'est le jardinier, mais en fait c'est Jésus. C'est en fait Jésus qui est là. Il vient la voir alors qu'elle pleure. Au moment où elle est en train de pleurer, Jésus vient. C'est là qu'il se manifeste. Et elle veut le toucher, elle veut s'emparer de lui, elle veut « Oh Seigneur, mon maître !» Et puis il l'arrête et lui dit « Non, ne me touche pas. Mon temps n'est pas encore venu, je ne suis pas encore monté auprès de mon père. Va annoncer à tes frères que je suis ressuscité. » Premier point, Jésus, le ressuscité, se présente à nous pour nous envoyer. Nous envoyer annoncer sa présence, nous envoyer annoncer sa grâce, annoncer ce qu'il fait. Et c'est ce que nous avons pu faire au cours des dernières semaines, et lors du culte de la semaine passée aussi. Mais donc, quand Jésus, le ressuscité, vient dans notre vie, quand il est auprès de nous, il nous envoie très souvent. Il nous envoie, il a un message qu'il veut que nous puissions transmettre. Et Marie a tout de suite compris ça, elle a couru et elle a été dire à tous, j'ai vu le Seigneur, j'ai vu le Seigneur. Elle a réjoui tous les autres. En d'autres termes, quand le ressuscité vient nous voir, c'est pour que nous puissions communiquer sa joie aux autres. Nous sommes dans un monde où nous avons besoin de la joie du ressuscité, nous avons besoin de la paix du ressuscité. Et bien évidemment, cette paix n'est pas constamment dans notre cœur, nous ne sommes pas constamment en paix, constamment, parfaitement au-dessus des nuages. Mais malgré tout, nous avons cette mission de pouvoir porter, être des porteurs de la joie du ressuscité. C'est ce que Marie a fait. Elle a tout de suite couru. Elle a tout de suite couru pour annoncer cette nouvelle. Premier point, quand le ressuscité vient me rencontrer, c'est pour m'envoyer. Pour m'envoyer vers mon frère qui est malade. M'envoyer vers ma sœur qui est dans la tristesse. M'envoyer vers le pauvre. M'envoyer vers l'indigent. M'envoyer vers les gens qui ont besoin de moi. M'envoyer vers les gens qui ont besoin d'un soutien, d'une aide, de la paix, m'envoyer aussi vers les frères et sœurs qui ont parfois oublié la joie du ressuscité, qui se sont éloignés de la joie du ressuscité. Quand Dieu vient me voir, il m'envoie, il me donne une tape dans l'épaule. Vas-y, va. Va donner ma joie, va donner ma paix. Mais encore une fois, ça demande de notre part d'avoir beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence, beaucoup de recherche de ce que Dieu veut. Et c'est pour ça qu'on encourage beaucoup les gens à prier avant de quitter leur maison. Pas parce que sinon Dieu ne les protégera pas pendant la journée, mais parce que nous avons besoin de nous arrêter un instant avant de commencer la journée pour demander « Seigneur, rends-moi sensible à ce que tu voudras de moi au cours de cette journée. Je rencontrerai des gens qui auront peut-être besoin d'un sourire, bêtement. Des gens qui auront peut-être besoin d'une parole douce. » Vous savez que Proverbe chapitre 15 nous dit qu'une parole qui vient au bon moment est comme un baume de guérison. Une parole dite au bon moment. Est-ce que nous savons dire des paroles au bon moment? Souvent pas. Alors ici, vous ne connaissez pas ça, mais dans certains milieux, quand quelqu'un décède, et qu'on arrive à la rencontre du décès, les gens ne s'asseyent pas pour dire « Oh là là, il est parti, en tout cas. » Tout le monde est là en train de réfléchir. « Bon, mec, quel péché il a fait? Quel péché? C'est qui? Qui est la cause ici? Il est mort? Qui a fait quoi ?» Au lieu d'être là dans l'encouragement ou d'être là dans la paix, ou alors vous allez avoir quelqu'un qui vient de perdre un proche il y a 10 minutes, et puis vous commencez « Oui, mais t'inquiète pas, il va ressusciter dans la gloire, le Seigneur s'occupe de tout. » Laisse la personne pleurer tranquillement, laisse la personne souffrir, ça fait mal, voilà, laisse les gens avoir mal. Et ensuite tu viendras avec tes paroles d'encouragement. Nous avons besoin d'avoir cette joie du ressuscité, mais nous avons besoin de savoir que dire, quoi dire au bon moment. C'est ça la force de la parole de Dieu. Nous devons le comprendre. La force, ce n'est pas de parler à tout va. La force, c'est d'être toujours prêt, d'attendre le moment de communiquer une joie, mais d'être à l'écoute de Dieu, de dire quel sera le bon moment pour dire quoi, comment. Premièrement, il vient nous chercher pour nous envoyer. Deuxièmement, il vient, quand il nous rencontre, pour nous remplir de joie. Les disciples, lorsqu'ils étaient dans la pièce fermée, lorsqu'ils étaient dans cette petite maison qu'ils avaient verrouillée et que Jésus vient, il dit qu'ils étaient remplis de joie. Est-ce que vous avez déjà été remplis de joie? Et c'est vrai que très souvent, et c'est très bien, notre joie, elle est souvent associée à des événements concrets. Mon petit-fils a eu son diplôme. Mon frère a signé le prêt pour sa maison. Il a été chez le notaire, il a une maison, on est content et tout ça. Mais on parle d'autre chose là. On parle des disciples qui ont vu le ressuscité. Ils étaient dans une joie immense. Est-ce que vous pouvez imaginer? Mettez-vous deux secondes à leur place. Ils sont là en train de pleurer la mort du Seigneur et voici qu'il entre. Quelle joie! Oh, moi, j'arrive pas à imaginer. Moi, je crois que j'aurais crié. Je crois que j'aurais crié. Je crois que j'aurais dansé. Je crois que je... Il est vraiment ressuscité. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tous nos problèmes. Il est au-dessus de tout notre tracas. Il est au-dessus de toutes nos réalités. Il est au-dessus de toutes les choses de ce monde. Il est assis à la droite du Père. Il règne. Rien ne peut l'atteindre. Aucune guerre, aucune tristesse, aucune mort. Et il vient nous rencontrer. Au-dessus de la mêlée, complètement au-dessus de nous. Ressuscité. Deuxièmement, quand le ressuscité vient nous voir pour nous communiquer sa joie. Il veut nous donner sa joie. Et là, vous allez voir, et c'est ce que nous essayons de montrer ici, qu'en fait, quand Jésus se manifestait, il voulait quelque part fortifier ces personnes pour continuer la marche. Quand Jésus se manifeste, c'est pour nous fortifier de continuer la marche. Nous savons que la marche n'est pas facile. Nous savons que les circonstances ne sont pas faciles. Nous savons que le monde n'est pas facile. Mais il vient les remplir de joie. Et vous savez, c'est un petit peu, quelque part, quand on mange. Pourquoi est-ce qu'on mange plusieurs fois par jour? Parce qu'à un moment donné, l'effet de la première nourriture s'estompe. Vous déjeunez, par exemple, à 7h30 du matin. À midi, c'est comme si vous n'aviez rien mangé. Votre estomac, oui, il a quelque chose à l'intérieur, mais vous n'avez plus de force. Et puis à midi, vous mangez des tartines, ou alors vous allez à la cantine de l'école. Faut pas tout le temps y aller. Hein. Vous savez, dans les écoles, faut pas toujours manger. Parce que... Je ne vise personne, je dis ça au hasard. Comme ça. Bon, mais vous mangez à midi, et la nourriture que vous prenez à midi vous donne de la force jusqu'à... Donc, quelque part, vous êtes flagada, mais le fait d'avoir ingurgité cette nourriture-là, ça vous donne une piqûre de plus, une piqûre de force pour continuer à avancer. Et c'est ce que Jésus a voulu faire. La différence, c'est que, bien évidemment, c'est proportionnel. Quand on a une très grande révélation, la grâce de voir le ressuscité, ben, je crois qu'on est encouragé pour toute sa vie. Si Jésus rentre là maintenant et qu'on le voit tous avec nos yeux, il n'y aura plus besoin de prédication pour nous encourager à venir au culte. Hein, on ne devra plus dire « Alors, vous venez ou vous ne venez pas ?» Tout le monde sera là. On devra casser des murs pour mettre les gens ici. Bon, soit. Mais bon, tout ça pour dire, il vient pour nous donner sa joie. Et aussi, pour nous donner sa paix, il dit « Que la paix soit avec vous. » Que la paix soit avec vous. Nous avons besoin de sa paix. C'est une richesse de Dieu, la paix. Et disons-nous aussi que la paix et la force appartiennent à Dieu. Quand les choses deviennent difficiles, nous pouvons lui demander sa force. Nous pouvons lui demander sa paix. tout comme la terre et ses richesses lui appartiennent, toute la force, toute la paix sont à lui. Nous pouvons dire ressuscité, viens me donner ta paix, viens me donner ta joie, viens m'encourager pour le chemin qui reste encore. Troisièmement, quand Jésus vient nous rencontrer, il vient pour nous conduire vers le lieu de l'abondance. Nous avons lu le texte de la pêche miraculeuse, vous l'avez lu avec moi, où il n'avait pris aucun poisson, pas un seul poisson. Alors ça semble même exagéré parce qu'on se dit, quel est le gars qui a été à la pêche et qui n'a jamais eu un seul poisson? Il faut vraiment être nul à la pêche. Bon, ou pas avoir pris les bons asticots, je ne sais pas, mais bon, remets-toi en question quand même si tu n'as pas réussi à avoir un seul poisson. Mais Jésus va leur indiquer par où ils doivent chercher le poisson. Et lorsqu'ils vont obéir, ils vont écouter le conseil de Jésus, ils vont avoir un filet complètement rempli, ils auront même du mal à le remettre sur la rive, tellement le filet est rempli. Troisièmement, quand le ressuscité vient nous voir, il vient pour nous conduire vers le lieu de l'abondance. Nous avons besoin d'aller vers le lieu de l'abondance. L'objectif ici de Jésus, c'est de leur montrer sa puissance et son omniscience. Mais c'était aussi, et vous le verrez, qu'ils puissent manger. Puisqu'à la fin, c'est ce qu'ils vont faire, ils vont manger. Comme nous prions tous les jours, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Quand le ressuscité vient nous voir, il vient nous diriger vers le lieu de l'abondance. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Le lieu de l'abondance, c'est le lieu de ce dont nous avons besoin pour notre âme. Et bien sûr, ça comporte les choses physiques, matérielles, ça comporte aussi les choses spirituelles. Les choses matérielles aussi, on en a besoin. Il vient pour nous indiquer, va par tel chemin à la promesse de l'abondance. Va par tel chemin à la promesse que tu trouveras ce que tu peux, ce dont tu as besoin. Va à tel endroit, tu trouveras des personnes dont tu as besoin. Savez-vous que nous avons besoin de gens autour de nous? Nous ne pouvons pas vivre seuls. Que ce soit au travail, que ce soit à l'église, nous ne pouvons pas vivre seuls. Parfois, le ressuscité vient nous voir pour nous dire, va vers telle personne, ce sera ton lieu d'abondance. Va vers tel travail, ce sera ton lieu d'abondance. Épouse telle personne, ce sera ton lieu d'abondance. Va dans telle direction, ce sera ton lieu d'abondance. Nous avons besoin d'être conduits par lui vers notre lieu d'abondance. Le ressuscité nous amène dans ce lieu où notre âme reçoit ce dont elle a besoin. Troisièmement, le ressuscité vient nous voir pour nous conduire vers des eaux paisibles. Et les proverbes nous disent que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Quand il nous dirige vers des eaux paisibles, son objectif, c'est que nous puissions aller dans un endroit, dans des lieux où nous n'aurons pas de chagrin, ou en tout cas, il ne veut pas nous donner des choses qui nous produisent du chagrin. Nous savons que nous, quand nous faisons des choix, parfois nous regrettons par la suite. Nous sommes chagrinés. Alors demandons au ressuscité de nous conduire vers le lieu de l'abondance. Même en tant qu'Église, demandons à Jésus de nous conduire vers ce qui est abondant. Il aurait pu se contenter à ce qu'il prenne un poisson. Ah, il y a un poisson. Ah, il y a un poisson. Ah, c'est super, Seigneur. Parce que, désolé, mais entre 0 et 1, il y a quand même plus 1. Donc, s'ils avaient eu un seul poisson, ils auraient pu dire, bah oui, ben, on a un poisson, merci, Seigneur. Il a vraiment voulu leur donner tout ce dont ils avaient besoin. Ne nous y trompons pas. Dieu veut répondre à nos besoins. C'est rappelé à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Il va dire que Dieu connaît vos besoins avant même que vous puissiez les demander. Faites connaître tous vos besoins à Dieu, car il prend soin de vous. Il veut combler nos besoins. Quelqu'un disait, Dieu s'occupe bien plus de nos besoins que de nos désirs. C'est peut-être un peu vrai, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que lorsque nous grandissons dans la foi, nos besoins, ce sont nos désirs. Nous ne désirons pas autre chose que ce dont nous avons réellement besoin. Tout comme quelqu'un qui mange, quand il mange pour être rassasié et puis il s'arrête de manger. Quatrièmement, Jésus vient aussi pour nous charger d'une mission. Voyez que Pierre, alors qu'il était ressuscité, Pierre vient rencontrer Jésus et Jésus va lui donner la mission suprême. Sa mission à lui pour sa propre vie. Une mission qui nécessite une rencontre avec le ressuscité. Il va lui dire « Paix mes brebis ». Et un verset que j'aime tellement, que je trouve tellement merveilleux, et c'est un verset qu'on m'a beaucoup répété, et qui a beaucoup impacté ma vie. Verset 18, Jean 21, 18. « Vraiment, je te l'assure, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les bras et un autre nouera ta ceinture et te mènera là où tu n'aimeras pas aller. Tu iras là où tu ne voudras pas aller. » C'est aussi ça la mission de Dieu. Ce n'est pas seulement le lieu de l'abondance, c'est aussi d'aller là où je ne veux pas aller. Et donc quand le ressuscité vient nous voir, il vient aussi pour ça. C'est pour ça que je dis toujours, il faut faire attention quand on dit « ça ne me botte pas, ça ne me dit rien ». Bon, moi je veux bien, mais ça ne te dit rien, mais c'est peut-être là que tu t'attends. Quel beau verset. Tu iras là où tu ne veux pas aller. Combien de fois on m'a pas dit ça? Mais mieux vaut être attaché à cette pensée-là. Parce que comme ça, quand Dieu nous demande d'aller à un endroit où on ne veut pas aller, on n'est pas étonné. Parce qu'il y a des gens, « Ah, Dieu, tu me demandes ça, mais... » Oui, mais bon, au moins quand on le sait, on l'accepte plus vite. Hein, tout comme notre bon Abraham qui montait Isaac au-dessus de la montagne, il n'avait pas envie d'y aller. Hein. Il n'avait pas envie d'y aller. Mais il a quand même levé le bâton. Il a quand même lié son fils. C'est aussi pour ça que le ressuscité vient nous voir. Mais à côté de ça, une chose importante, c'est que lorsque Pierre allait là où il n'avait pas envie d'aller, ça avait un impact extraordinaire sur les endroits où il allait. Il mourait à lui-même, il souffrait lui-même. Mais les gens vers qui il allait trouvaient le salut. Et lorsque Pierre arrivera au ciel, il ne pleurera pas d'avoir souffert ce qu'il a souffert. Lorsqu'il verra tous les gens qui ont pu être sauvés par son ministère. Si le grain ne meurt pas en terre, il ne peut porter aucun fruit. Acceptons aussi nos morts personnelles, pas mourir pour mourir, pas se faire du mal pour se faire du mal, mais mourir quand ça peut édifier, quand ça peut porter du fruit, quand ça peut faire du bien. Et rappelez-vous l'apôtre Paul qui dit « Pourquoi n'acceptez-vous pas plutôt l'injustice ?» plutôt que de vous créer des procès entre chrétiens. En d'autres termes, pourquoi n'acceptez-vous pas plutôt de supporter quelque chose d'injuste plutôt que d'aller traîner vos frères devant les tribunaux? Parfois, nous devons aller là où nous n'avons pas envie d'aller. Jamais vu une horloge qui va aussi vite, moi, ici. Ensuite, je vais m'arrêter ici, je pense. Troisièmement, quand... je ne sais plus à quel point on est, mais... Cinq. Dans Apocalypse, la vision du ressuscité. Alors, je ne vais pas me permettre de parler d'Apocalypse, sinon Aurélien va me fusiller des regards en disant « Mais non, c'est pas ça !»« Mais non, on l'a étudié, c'est pas ça !» C'est bon. Donc, je ne connais pas Apocalypse, je ne l'ai jamais lu. C'est la première fois que je le lis, d'ailleurs. Donc, quand Jean voit le ressuscité vient vers lui, et lui dit cette parole que j'aimerais parfois entendre. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Ne crains pas. Et plus tard, alors que Jean est en train de pleurer parce que personne ne peut ouvrir le livre, on vient lui dire, ne pleure pas. Ne pleure pas. L'agneau a vaincu et il a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Quand le ressuscité vient vers nous, il vient pour nous rassurer. Pour nous rassurer. Nous avons tellement besoin d'être rassurés parfois. Et nous avons effectivement à ouvrir nos yeux pour pouvoir voir toutes les fois où il veut nous rassurer, où il veut nous dire « N'aie pas peur, ne crains pas. N'aie pas peur. » J'ai déjà eu des gens, c'est déjà arrivé régulièrement que des gens me disent « Le Seigneur connaît ta situation et il te dit de ne pas avoir peur. » Et effectivement, quand je regarde, je me dis « Ben oui, c'est vrai. » Je n'ai pas à avoir peur. Il vient aussi pour nous rassurer, pour nous faire du bien, pour nous encourager. Que le Seigneur nous aide réellement à avoir cette relation avec le ressuscité, à comprendre la grâce que nous avons d'avoir un Jésus vivant, qu'on peut louer, qu'on peut adorer, on peut chanter, on peut le célébrer. Nous lui appartenons. Et il veut agir dans nos vies aujourd'hui. Il veut nous apparaître encore aujourd'hui. Amen.